Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mussien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Le lundi 20 mai a eu lieu au cimetière de Longueuil-Sainte-Marie, dans l'Oise, la cérémonie d'inauguration d'une stèle en mémoire du pilote de chasse Stanislas Kalinski, squadron 315 des forces aériennes polonaises au sein de la Royal Air Force. Il est tombé en mission le 20 mai 1944 au Mont-Rucourt, commune de Longueuil-Sainte-Marie. Serge Barcellini, président du Souvenir français, nous présente cette association fondée en 1887.
Je suis ici parce que notre association est la grande association mémorielle en France. C'est une association implantée dans tout le territoire national, plus de 1550 comités. Et nous sommes la grande association qui portons et sauvegardons la mémoire combattante de la France à partir du 19e, 20e siècle et bien sûr 21e siècle avec les OPEX. Nous sommes persuadés que si les Français ne partagent pas la même histoire, ils ne peuvent pas partager la même nation. Partager une histoire, c'est aussi partager les pages de lumière, mais aussi les pages d'ombre. Et ici, c'est plutôt une page de lumière que nous allons rappeler.
Est-ce que vous pouvez nous présenter ce pilote, Stanislas Kalinski, s'il vous plaît ?
Stanislas Kalinski est un pilote qui est mort ici, il y a exactement 80 ans. Donc nous commémorons son 80e anniversaire de sa disparition. Et pour moi, il symbolise la totalité de ce qu'a été l'histoire polonaise et de la France durant 39-45. C'est un jeune qui s'engage à 16 ans, 1938, pour devenir pilote, en Pologne, bien évidemment. 1938, c'est un an avant l'attaque, n'est-ce pas, nazie sur la Pologne. En 1939, il n'est pas encore prêt, bien qu'il a fait ses premiers vols, et il va être rapatrié en Roumanie. Il a la chance de ne pas être arrêté. De la Roumanie, il va gagner la France, où il arrive en France en mai 1940. Mai 1940, c'est malheureusement le grand tournant en France. Et en juin 1940, il est évacué, il part à Londres, il part en Grande-Bretagne. Où en Grande-Bretagne, il va vêtement être pris en main pour être un grand pilote de la RAF. Il va être un pilote qui va faire de nombreuses attaques sur la France et de bombardements sur la France jusqu'à cette date fatidique du 20 mai 1944 où ils disparaissent. Et je pense que quelque part, ils symbolisent tout ce qu'a été l'amitié de la France et de la Pologne, et en particulier, puisqu'on est à quelques jours du 6 juin, les Polonais ont joué un rôle important le 6 juin 1944. Et je pense qu'il faut le rappeler à travers simplement cette mémoire de Kalinski, ici, de Stanislas Kalinski. Nous devons rappeler ce qu'a été la Pologne en 1939-45 et ce qu'a été la Pologne le 6 juin 1944.
Alors, il a été bombardé en piqué, c'est ça exactement ?
Absolument. Il a été bombardé en piqué et on a du mal d'ailleurs à savoir exactement comment il disparaît. On sait simplement que son avion disparaît, que son avion s'écrase et qu'il y a une mémoire qui va s'inscrire à travers lui autour de cet événement.
Ce pilote a reçu de nombreux prix, dont la Croix de Valeur et 3 fois la médaille d'or.
Absolument. D'abord, durant ses combats, il est reconnu comme un vrai aviateur, reconnu à la fois par la Grande-Bretagne, puisqu'il est RAF, il n'est pas français, il est RAF, hein, n'est-ce pas ? Il est reconnu à la fois à travers l'armée britannique et puis par la France, puisqu'il a la mention « mort pour la France ». Il est mort pour nous, il est mort pour notre liberté et nous lui avons donc donné un certain nombre de reconnaissances symboliques.
Pourquoi est-il inhumé dans le cimetière de Creil ?
En fait, il est tombé dans ce secteur et à l'époque, personne n'a voulu peut-être se battre pour le récupérer. Donc, on l'a mis au cimetière de Creil et je trouve que c'est une bonne idée. Restons là où il est tombé, restons dans ce secteur où il est, portons la mémoire du lieu où il s'est battu.
Alors, il avait effectué 47 vols, c'était son 48e. Mort jeune, à l'âge de 22 ans.
Absolument. Mort jeune, vous imaginez, un jeune qui à 16 ans s'était engagé dans l'armée polonaise et qui meurt 6 ans plus tard, dans une famille qui a été fortement engagée puisque son frère et sa sœur étaient résistants en Pologne. Et son père était dans l'armée de 14-18, l'armée du maréchal Pilsudski, qui était également une armée qui a combattu pour les Alliés en 14-18.
Il est mort précisément là, à quelques mètres d'ici, c'était au Mont-Rucourt, c'est ça?
Absolument. Nous sommes à quelques lieues de cet ensemble, et je trouve que ça a une force extraordinaire comme mémoire locale partagée. Car ce qui est essentiel avec la mémoire, c'est d'arriver à croiser une mémoire qui soit à la fois nationale, familiale et locale. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mémoire nationale, il est mort pour la France et pour la Pologne. Mémoire familiale, sa famille est là, et s'est battue pour écrire son histoire. Mémoire locale et territoriale, il suffit de regarder cette cérémonie pour savoir que l'ensemble du territoire partage cette politique de mémoire.
Exactement. Cette date, le 20 mai 2024, c'est pour les 80 ans, c'est ça ?
Absolument. Et si vous voulez, les 80e anniversaire sont excessivement importants. On va le voir avec le 6 juin. Les 80e anniversaire, c'est le dernier anniversaire où des gens peuvent encore dire « Je les ai vus passer, j'y étais ». Il n'y a plus de véritables survivants des combats. Mais il y a encore des gens qui disent « J'ai participé, j'ai vu l'événement ». Au 90e anniversaire, il n'y en aura plus. Donc ce 80e anniversaire est véritablement, quelque part, un tournant de cette vie commémorative que nous voulons porter.
Un petit mot sur la stèle qui va être dévoilée dans quelques secondes.
Elle va marquer le terrain ici. Elle va marquer l'entrée d'un cimetière où tout le monde se dira « il s'est ici passé quelque chose ». Elle donne un enracinement historique à ce cimetière. Cette stèle est une force mémorielle, une force dans le territoire.
Bernard Birk, habitant de Longueuil-Sainte-Marie, nous explique que ses cousins étaient présents lors du crash du pilote polonais Stanislas Kalinski.
Mon oncle exploitait une ferme dans la rue du Moulin, donc avec ses deux enfants. Mes deux cousins qui avaient 20 ans et 17 ans. Ils étaient à la ferme quand tout à coup un avion est tombé au Mont-Rucourt. Le Mont-Rucourt se trouve juste au bout de la rue du Moulin, au bout de la passe. Ils ont été voir l'avion. L'avion n'était pas trop endommagé. Et le toit était ouvert parce que le pilote s'était éjecté. Et mon cousin, le plus âgé, il est descendu dans l'avion. Puis il a joué au pilote. Et pour faire plus vrai, il a fermé le toit de l'avion. Et donc au bout d'un moment, il a voulu sortir. Impossible d'ouvrir le toit de l'avion. Il devait y avoir un système où peut-être qu'il avait été endommagé au cours de la chute. Bon, heureusement, il avait été avec son frère. Tous les deux, en force, ils ont réussi à sortir quand même.
Est-il vrai que pendant la nuit, des personnes sont venues chercher les roues de l'avion ?
Oui, pendant la nuit, à cette époque-là, les pneumatiques, ils avaient beaucoup de valeur, enfin tout, parce qu'ils manquaient de tout pendant la guerre, et ils sont venus chercher les deux roues de l'avion. Le lendemain matin, ce sont les Allemands qui ont récupéré l'avion. Pourtant, c'était un avion anglais, mais c'est les Allemands qui gouvernaient tout. Donc, tout de suite, enquête dans la rue. On a dit, oh, bah oui, mais on a vu les deux jeunes de la ferme qui étaient autour de l'avion. Donc, automatiquement, c'était eux qui avaient pris les roues. Les Allemands les ont emmenés, interrogés, une perquisition à la ferme. Après, ça s'est su dans le village, parce que à cette époque-là, bon, c'était beaucoup de bouche à oreille. Puis, enfin, la rue, c'était petit. Et ils ont dit, bon, les roues de l'avion, ils ont disparu. Et ce sont deux jeunes de la ferme qui sont soupçonnés. Et bon, à cette époque-là, c'est pareil, les représailles des Allemands, pour une petite chose, ils prenaient plus des représailles. Ces jeunes-là, automatiquement, il va leur arriver quelque chose. Et donc, pris de remords, ils sont venus remettre les roues. La nuit d'après, ils sont venus remettre les roues à l'avion. Et donc, le lendemain, ils ont vu que les roues, ils étaient là. De ce coup-là, ils ont repris l'avion. Et puis, bon, ils ont arrêté dans l'enquête, surtout au grand soulagement de mes cousins, parce que, bon...
Donc, vous êtes aujourd'hui, indirectement, l'un des derniers témoins de cet événement.
On en parlait souvent, parce que, avec ma famille, c'est vrai que la période de guerre, ça les a beaucoup marqués.
Donc, vous êtes ému aujourd'hui de découvrir cette stèle et d'assister à cette cérémonie.
Oui, malheureusement, mes cousins sont disparus, parce qu'ils étaient plus âgés que moi. Mais, bon, peut-être qu'ils nous regardent de là-haut. Ils seraient contents s'ils voyaient ça, je crois.
Gilles Boyle, président de l'ONAC.
Alors l'ONAC, c'est l'Office National des Combattants et Victimes de Guerre. Il y a deux commissions, on fait la solidarité, donc pour tous les anciens combattants, les veuves, les personnes victimes d'actes de terrorisme, donc comme le Bataclan, et il y en a des personnes dans l'Oise, c'est aussi les harkis. Donc on fait la solidarité avec toutes les personnes, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, des fois financières, pour les personnes qui sont tout juste à 800-900 francs par an, une veuve, c'est des fois difficile. Mm-hmm. On fait la commission porte-drapeau, c'est-à-dire qu'avec la signature de Madame la préfète de l'Oise, Catherine Seguin, on discerne des diplômes, parce que c'est des diplômes officiels, donc 3 ans, 10 ans, 20 ans. Ces diplômes sont décernés avec une enquête de moralité, parce qu'on ne peut pas recevoir un diplôme de porte-drapeau, une attestation, si on a fait des actes vraiment graves. C'est quand même le drapeau de la France. Quand on porte un drapeau, on ne porte pas que le drapeau d'une association, on porte le drapeau français. Donc ce que l'on fait dans l'Oise ou dans tous les autres départements, mais nous dans l'Oise on y tient énormément, surtout à l'ONAC, et je suis aussi président d'une association de combattants, c'est intégrer les jeunes. Les jeunes sont notre avenir. Ceux d'Afrique du Nord maintenant ils ont 80 ans, donc on a énormément de décès. Les OPEX, les nouveaux combattants qui sont en Afghanistan, Liban, Tchad, etc., ne sont pas assez nombreux pour prendre la relève. Donc maintenant il faut à tout prix former. Et dans l'Oise, il y a eu des initiatives faites par la délégation militaire départementale de l'Oise de faire des formations de porte-drapeau. En 2 jours, on fait venir tous les jeunes, les anciens. Là, on a fait une formation de porte-drapeau à Compiègne. Il y a eu 110 personnes de formées. Sur les 110 personnes, ça va, le plus petit avait 10 ans et le plus ancien avait 85 ans. Et on s'adresse à toutes les associations et là, on ne mentionne pas une association par rapport à l'autre. Voilà.
Quel a été votre rôle ce matin ?
Alors, ce matin, j'étais ce qu'on appelle, entre guillemets, un maître de cérémonie. On essaie que tout le protocole soit respecté, surtout quand on rend les hommages aux morts pour la France. Il est identique partout en France, depuis même la Première Guerre mondiale. Voilà. Et donc, là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supprimer. Voilà.
Un mot sur ce pilote ?
Alors, Stanislas Kalinski, alors que les nazis ont envahi la Pologne, lui, il ne pouvait plus combattre puisqu'ils avaient détruit les appareils polonais. Et on a vu ce matin l'intervention orale de monsieur le colonel représentant l'ambassade de Pologne en France. Il a bien précisé que quand même, contrairement à ce qu'on pense, qui n'ont pas trop de culture historique, les Polonais se sont très bien battus. Vous avez entendu le nombre de sous-marins détruits, ce qui paraît paradoxal pour un avion de détruire des sous-marins. Alors donc lui, quand les nazis ont occupé la Pologne, il est venu s'engager en France. Donc il s'est enregistré. Malheureusement, les nazis ont poursuivi leur attaque. Après la Pologne, c'est la France qui est tombée. Et il a décidé d'aller servir dans un escadron de la Royal Air Force. Il y avait pas mal de Polonais qui se sont battus. Et malheureusement, lui est tombé pas très loin d'ici, au bout de la rue. Donc, monsieur le maire de Longueuil-Sainte-Marie, Stanislas Barthélémy, a voulu lui rendre hommage. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, et il ne faut pas l'oublier, qui sont morts pour la France. Et des fois, on oublie aussi le nombre de Français qui se sont battus héroïquement à Dunkerque et tout ça, pour retarder et que toutes les troupes britanniques et françaises puissent regagner le Royaume-Uni pour reprendre le combat. À l'ONAC, on a aussi des professeurs d'histoire qui sont de l'Oise. On leur fait faire des livres. Par exemple, on a fait à l'ONAC le livre 1870 dans l'Oise. On s'aperçoit que beaucoup de personnes qui vivent dans l'Oise ne savent pas tous les événements qui se sont passés dans l'Oise avec des exécutions sommaires dès 1870.
Stanislas Barthélémy, maire de Longueuil-Sainte-Marie.
Si nous sommes ici, c'est parce que Stanislas Kalinski a donné sa vie pour toi et pour moi. Merci à vous, sa famille, qui a porté les conséquences de ce choix pendant de nombreuses années. Merci à chacune et à chacun d'entre vous qui choisissez de défendre la France en vivant de sa devise la fraternité. Et que vive la Pologne, vive la France et vive l'Europe.
Yann Barré pour Radio Valois-Mulsien. J'étais donc en ce lundi 20 mai dans la commune de Longueuil-Sainte-Marie pour la cérémonie d'inauguration d'une stèle en mémoire du pilote de chasse polonais Stanislas Kalinski.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.